Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Adoré, j'adore ce que tu fais, j'adore cet artiste, je t'adore. Sans vouloir faire le rabat-joie ou le moraliste, le verbe adorer est devenu une expression courante. Pourtant, qui sait qu'en plus de n'adorer que Dieu, l'homme peut l'adorer en sa présence? La foi des chrétiens, décidément un peu folle, est de croire que Jésus ressuscité est en effet réellement présent dans l'Eucharistie consacrée à la messe. De quoi donner à méditer. Voilà, cette émission Vivante Église, ce matin, Rencontrer Jésus, émission donc sur l'adoration, vous l'aurez bien compris, avec autour du plateau pas mal de monde. On va commencer avec le père Florian Racine, qui est prêtre fondateur des missionnaires de la Très Sainte Eucharistie. Bonjour mon père. Allô, allô, vous m'entendez?
Oui.
Voilà, bonjour.
Bonjour.
Autour du plateau aussi, il y a Florence de la Giclée, membre de l'Adoration Perpétuelle à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Un peu plus tard, nous rejoindrons Christian Lascourège, qui est coordinateur, lui, de l'Adoration à Pau, Dominique Gratté, membre de l'Adoration à Pamiers. Et à la fin de cette émission, on aura Franco, qui est responsable de la communauté du Cenacolo à Lourdes, communauté qui accueille des personnes en situation de toxicomanie et qui se relève, entre autres, par l'adoration. Alors on va commencer avec vous, père Florian Racine. Pour ceux qui sont, on va dire, du Sérail, peut-être vous commencez à être un petit peu connu, et les missionnaires de la Très Sainte Eucharistie également, mais pour beaucoup d'autres de nos auditeurs, vous n'êtes pas du tout connu. Si vous deviez commencer par présenter les missionnaires de la Très Sainte Eucharistie, la manière dont ils sont nés, comment vous nous le présenteriez, s'il vous plaît?
Alors c'est... Une petite communauté de prêtres, une association cléricale. Donc ce sont des prêtres qui sont basés dans le diocèse de Toulon et qui ont pour mission d'aider des paroisses, des diocèses à lancer et à organiser l'adoration permanente du Saint-Sacrement. Donc normalement nous intervenons lorsqu'un curé ou un évêque nous demande de lancer l'adoration sur leur paroisse ou sur leur diocèse. Et nous faisons ça de manière très simple. On prêche aux différentes messes du week-end en invitant les gens à répondre à cet appel de Jésus au Jardin des Oliviers. Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi? On montre bien que l'adoration est un prolongement de la Sainte Eucharistie, de la messe. Et ensuite, lorsque nous avons récupéré les personnes qui sont intéressées, qui ont envie de participer à ce projet de prière et d'intercession devant le Saint-Sacrement, eh bien on est là pour aider les paroisses à organiser tout cela de manière pratique, simple et concrète.
Alors, les missionnaires de la Très Sainte Eucharistie, vous êtes nés en 2007, si je ne me trompe pas. Est-ce que, je sais pas, il y a d'autres congrégations qui font ça en France, en fait, où vous êtes les seuls? Et est-ce que par le passé, vous avez eu, en fait, des prédécesseurs? Est-ce que c'est une tradition apostolique de la France que de travailler à installer l'adoration dans les paroisses comme ça?
C'est une tradition qui remonte, bien sûr, qui remonte loin dans le passé. Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de communautés religieuses qui sont nées après la Révolution française, parce que puis c'était difficile et même pas possible de dire la messe. Très souvent, les prêtres allaient célébrer dans les maisons et exposer le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement restait exposé longuement dans les différentes maisons pendant cette période très, 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 très difficile. Donc après, il y a eu ce grand goût après la Révolution pour l'adoration dans les paroisses, l'adoration perpétuelle. Mais avant cela, on pense à Sainte Marguerite Marie, où c'est Jésus qui s'adresse à Marguerite Marie, mais à toute l'Église en montrant
juste
son cœur et en
montrant Sainte Marguerite Marie, est-ce que vous pouvez juste resituer, parce que tous les auditeurs connaissent pas?
Alors, Sainte Marguerite Marie, c'est par Elmonial, c'est 1700, je peux pas vous dire exactement, c'est 18e siècle, 17e ou 18e siècle. Voilà, et donc Jésus s'adresse à Sainte Marguerite Marie en expliquant que l'Eucharistie n'est pas une chose, mais que c'est bien une personne, que c'est un cœur qui nous aime, et qui a soif d'être aimé des hommes en retour. Et donc il donne cette belle parole, voilà, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et qui trouve si peu d'amour en réponse dans ce sacrement, et ensuite j'ai soif, et d'une telle soif d'être aimé des hommes dans l'Eucharistie, que cette soif me consume. Même avant, il y avait Sainte Julienne du Mont Cornillon, ça c'était au XIIe siècle en Belgique, où Jésus explique que, en plus de la Sainte Messe, où il est célébré, adoré, hein, l'adoration commence à la messe, bien sûr, eh bien que, il souhaite aussi recevoir des hommages publics à travers différentes processions et expositions du Saint-Sacrement. Donc cette tradition remonte bien sûr à longtemps, mais elle est formalisée, on va dire, à partir du XIIe siècle. Voilà. Et désormais, les derniers papes, que je pense à Jean-Paul II, à Pape Benoît XVI, au Pape François, ont vivement invité les paroisses à organiser des périodes prolongées d'adoration eucharistique en fonction des paroissiens qui sont disposés à le faire.
Voilà, donc là vous nous avez cité quelques saints et mystiques. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, les saints dont vous avez parlé, en fait, ont eu des révélations justement mystiques et Dieu, par Jésus-Christ, en fait, s'est adressé à eux et donc leur a livré le message que vous venez de citer. Vous dites que voilà. Les papes encouragent l'adoration eucharistique, en tout cas, vous avez cité Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François. J'ai même cru comprendre que l'Église romaine incitait en fait chaque diocèse presque à mandater un prêtre pour consacrer du temps à l'installation de cette pratique spirituelle. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus?
Oui, alors c'est un très beau texte qui a été écrit en fait par le cardinal qui était responsable des prêtres au Vatican, c'était le cardinal Umesh, et c'était en 2007 justement, et il demandait soutenu par le pape, que tous les diocèses puissent organiser des périodes prolongées d'adoration et si possible avoir ce qu'il appelait des sanctuaires. Il expliquait qu'il y a des sanctuaires dédiés à la Vierge Marie un peu partout, mais qu'il y a aussi des églises plus spécialement consacrées à l'Eucharistie, célébrées, dignement célébrées bien sûr, mais aussi continuellement adorées. Donc c'était une demande de 2007 qui a été relayée et qui a permis aux différentes réalités ecclésiales du monde entier de promouvoir l'adoration, alors de manière pas exactement telle que ça avait été proposé, mais chacun, on peut noter quand même que dans la plupart des paroisses aujourd'hui, les prêtres proposent alors soit une heure, soit une demi-heure, soit beaucoup plus, l'adoration jour et nuit. Et en France, on a à peu près une centaine de lieux où le Saint-Sacrement est exposé jour et nuit en continu. Voilà.
Une centaine de lieux, et ça s'est développé justement, c'est quoi, 10, 20 dernières années ou c'est...
Oui, alors bon, on pense bien sûr à Montmartre, ça fait plus de 120 ans. Mais nous, notre petite communauté, on a contribué, on a participé à travers toutes sortes de petites missions paroissiales, hein, on va dire, dans les paroisses pour lancer ces chaînes d'adoration prolongées. Ça fait 10 bonnes années.
Alors, on sait qu'il y a parfois, j'espère que c'est pas seulement parfois, des prêtres, des religieux qui écoutent aussi cette émission. Qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être de l'avant et de l'après? Qu'est-ce que ça change en fait d'installer l'adoration eucharistique au cœur d'une communauté? Alors là, la citation que je vais vous donner, que j'ai trouvée sur votre site internet, concerne, on va dire, plus largement que la simple vie paroissiale. C'est une citation d'un patriarche orthodoxe. Vous dites, qui dit la chose suivante: le monde sera soit défiguré par la consommation, soit transfiguré par l'adoration. Qu'est-ce que vous pourriez dire comme mot d'exhortation générale, on va dire?
Alors, les fruits de l'adoration sont très nombreux. Je pense qu'il faut toujours les voir d'abord au niveau personnel et ensuite au niveau ecclésial ou communautaire ou même universel. Au niveau personnel, je pense que les témoignages qui vont suivre seront les meilleurs exemples, mais en d'autres mots, nous nous plaçons devant notre Seigneur ressuscité qui est présent, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la haine, qui a vaincu le mal il y a 2000 ans, et ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur la croix, sa mort et résurrection, est rendu présent là, dans l'acte eucharistique qui commence à la messe, bien sûr, mais ensuite que nous sommes appelés à prolonger en passant du temps et en répondant par exemple à cet appel de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez, qui ployez sous le poids du fardeau, je vous soulagerai. » Ou « Venez à moi, vous tous qui avez soif, que celui qui croit boive, de mon cœur coulera un fleuve d'eau vive. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Hein, » On voyait dans l'évangile toutes les foules qui voulaient aller à Jésus, suivre Jésus, toucher Jésus. Et chaque fois qu'ils touchaient Jésus, par la foi bien sûr, eh bien il y avait cette force, cet amour guérissant qui sortait du Christ et qui faisait que ces personnes étaient différentes. Donc chaque personne qui vient passer du temps devant le Saint-Sacrement, eh bien dépose ses pauvretés, ses fragilités, ses blessures, et le Seigneur vient véritablement transformer. Hein, l'Eucharistie a une puissance de transformation. Une fois de plus, qui commence à la messe, hein, la messe, je veux bien rappeler que c'est le sommet, le centre, la source de notre vie chrétienne, mais tout ce qui se passe à la messe, eh bien nous sommes appelés ensuite à le prolonger d'une manière plus personnelle, mais ce n'est pas une manière individuelle, parce que comme disait le pape Jean-Paul II, lorsque nous sommes présents devant le Saint-Sacrement, même si nous sommes seuls devant cette sainte hostie exposée, nous sommes là au nom des personnes qui ont le plus besoin de la miséricorde de Dieu. Et de là, on peut rajouter cette deuxième dimension de l'adoration, pas simplement le cœur à cœur, pas simplement cette dimension personnelle où Jésus vient guérir mon cœur, mon intelligence, ma volonté, etc., mais cette dimension où je représente l'Église, le monde. Je suis là au nom de ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde divine. Et Jean-Paul II aimait dire que l'adoration eucharistique est un service éminent pour l'Église et le monde, parce que c'est le service de la prière, le service de l'intercession.
Alors, avant qu'on aille plus loin, peut-être on a un auditoire, en fait, je sais, très contrasté. Là, je parlais par exemple des prêtres et religieux, mais je sais aussi qu'on a des gens qui nous écoutent, qui ont une pratique, on va dire, légère, et qui peut-être se demandent, se sentent coupables, en fait, d'avoir du mal à avoir foi en la présence réelle dans l'Eucharistie, ou qui, pour qui, au contraire, peut paraître assez étrange. Est-ce que vous pourriez nous dire, je sais pas, fort de votre histoire personnelle ou d'un témoignage que vous avez eu au long de vos années d'apostolat, comment présenter ce grand mystère et comment aider à rentrer dans ce grand mystère d'une la présence réelle de Jésus ressuscité dans ce qui est a priori qu'un morceau de pain, en fait.
Oui, alors je pense qu'il faut toujours repartir des évangiles, parce que notre foi est basée sur la parole de Dieu et c'est la source de l'évangile. Ensuite, le Seigneur se manifeste de manière très libre et très, très spontanée dans les existences de chaque personne, mais à la base, lorsque Jésus, avant de mourir, va mourir, il va ensuite, il ressuscitera, mais il remontera à son Père, il veut trouver un moyen pour demeurer parmi nous, en prolongeant ce qu'on appelle son incarnation, c'est-à-dire sa présence physique, substantielle, enfin réelle parmi nous. Et donc il prend du pain, et celui qui a dit au commencement du monde que la lumière soit et la lumière fut, lorsqu'il prend du pain et qu'il dit « ceci est mon corps », eh bien, nous devons croire que le Seigneur peut changer du pain en son propre corps. Et quand il dit « ceci est mon corps », ça veut dire « ceci est ma personne ». C'est tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit avec ma mort, ma résurrection, ma victoire. Donc dans cette petite hostie, lorsque Jésus a célébré cette première messe, le jeudi saint, on peut dire, il a voulu faire ce miracle qui dépasse notre intelligence, notre raison. On ne peut pas le comprendre avec notre propre intelligence, même si cela ne contredit pas et ne s'oppose pas à notre intelligence. Mais on doit comprendre que Jésus est capable, en tant que Dieu, Fils de Dieu, parole éternelle de Dieu, eh bien, de changer du pain en son corps. Et juste après, il dit « faites cela en mémoire de moi ». En d'autres mots, aujourd'hui, lorsqu'un prêtre reprend les paroles de Jésus par la puissance de l'Esprit-Saint à la messe, eh bien, ce que Jésus a fait, rendu présent, c'est-à-dire ce morceau de pain au début de la messe, ça n'est que du pain, une petite hostie qui n'a aucun intérêt en soi, eh bien, devient par la puissance de l'Esprit-Saint la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Ce discours avait un peu choqué les personnes, les contemporains de Jésus. On se souvient au chapitre 6 de Saint Jean, où les gens, la plupart des proches de Jésus, ont même quitté Jésus en se disant que ses paroles sur le pain de vie ne sont pas acceptables. Mais Saint Pierre, souvenez-vous, il a dit « Seigneur, à qui irions-nous tes paroles ? Tu as les paroles de vie. » Et Saint Pierre pose cet acte de foi, comme les disciples. Donc c'est vrai que l'Église, à chaque messe, après la consécration, le pain qui est changé en corps du Christ, le vin qui est changé en sang du Christ, on dit haut et fort, il est grand le mystère de la foi, c'est-à-dire que c'est une réalité bien, bien réelle, bien concrète, qui est grande. C'est ce qui constitue le cœur de la foi catholique, de la foi chrétienne, cette présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie.
Voilà, et puis voilà. A priori, c'est rassurant, parce que c'est-à-dire que même les apôtres du temps de Jésus étaient un peu choqués par ce qui paraît être une folie, oui, de prime abord. Et donc c'est un peu normal. Exactement. Aussi parfois qu'on ait du mal à se positionner ou à entrer dans ce mystère, non ?
Exactement. De toute façon, la foi, hein, c'est à la fois un don de Dieu, c'est-à-dire qu'elle vient de la parole de Dieu, en même temps c'est Dieu qui nous invite à y croire. Et Dieu ensuite respecte nos personnes et il attend que nous répondions à cela en posant cet acte de foi dans notre cœur. Donc après, c'est un va-et-vient entre Dieu qui vient nous visiter, nous appeler, et en même temps notre réponse. Et c'est vrai que quand on vient à la messe, au début on ne sait pas trop ce que c'est, mais lorsqu'on a communié et qu'on s'était préparé pour cela, eh bien on fait une rencontre au fond de son cœur d'une présence qui nous dépasse, et Et petit à petit, à travers l'enseignement de l'Église, hein, qui vient de l'Évangile, on découvre qu'il y a une vraie présence du Christ sous les apparences du pain. Et cette expérience, quand les adorateurs commencent, quand on fait un appel pour l'adoration permanente dans une paroisse, on invite les gens à donner une heure chaque semaine devant le Saint-Sacrement. Au début, il y en a beaucoup qui ne savent pas trop pourquoi ils le font, mais ils sentent cet appel. Et petit à petit, le Seigneur, alors qu'ils répondent en venant prier dans le silence, le Seigneur va toucher leur cœur et ils sentent qu'il y a vraiment cette présence divine, cette grande majesté de Dieu qui est là, mais en même temps ce grand Dieu qui se fait tout petit, comme il s'est fait tout petit à Bethléem en venant dans un petit bébé. Et là, il se fait si petit en venant sous les apparences de cette petite hostie.
Alors peut-être juste avant de finir avec vous et puis de passer à la suite de l'émission, sur votre site internet, vous listez un certain nombre d'objections qui est probablement ce que vous avez entendu dans les nombreuses missions que vous avez conduites. Alors je vais peut-être pas toutes les citer. Il y en a, on va dire, qui concernent ceux qui sont loin. Il est dit un moment, mais on peut, comment dire, on peut adorer Dieu en marchant dans la nature. Ou alors en priant soi-même dans sa chambre, comme il est dit dans l'Écriture. Une autre objection, c'est qu'on craint de chosifier en fait l'Eucharistie ou de lui donner une place peut-être indue. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objection? Le fait que c'est difficile, que les gens se découragent rapidement ou que tout simplement dans ma paroisse l'adoration n'est pas encouragée. Qu'est-ce que vous diriez, enfin, peut-être pas toutes ces objections, mais les principales qui vous sont adressées
alors, là, vous touchez plusieurs objections qui touchent plusieurs domaines de la vie chrétienne. Il y en a qui touchent la difficulté de prier, c'est-à-dire que c'est difficile de prier chez soi, n'importe où ou à la messe. Mais j'ai envie de dire, pour reprendre juste la première que vous avez dite, par rapport à pourquoi prier dans une chapelle et pas dans la nature. Alors, il faut prier partout dans la nature, et le Seigneur, ce qui est beau dans notre foi chrétienne, c'est qu'il est présent dans le cœur, dans notre cœur, par la grâce du baptême. Donc, on peut véritablement prier Dieu n'importe où, quel que soit l'endroit. Maintenant, on peut faire aussi l'analogie un petit peu en disant qu'il y a 2000 ans, les gens, ils pouvaient prier aussi en allant se promener sur le lac de Tibériade ou je ne sais où, ou alors ils pouvaient aller rencontrer cet homme qui s'appelait Jésus-Christ, qui s'était incarné et qui était présent en chair et en os. Hein, c'était vrai Dieu, vrai homme. Et donc nous aussi, on peut dire la même chose pour la messe. Quand on va à la messe, eh bien, on va dans une église pour recevoir l'Eucharistie, parce qu'il y a une continuité entre cette présence corporelle du Christ il y a 2000 ans et Jésus dans cette petite hostie. Et donc on a besoin d'aller à la messe physiquement. Bon, si on ne peut pas, le Seigneur se donne, il n'est pas limité par sa présence physique dans l'Eucharistie, mais on est invité à aller le recevoir dans l'Eucharistie le dimanche à la messe. Et après, l'adoration, c'est dans le même sens, c'est-à-dire que le Christ n'est pas limité encore une fois par cette présence sous les apparences du pain, mais c'est quand même là, eh bien, qu'il y a son corps ressuscité. Et saint Paul aimait dire, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. La plénitude de Dieu passe par la sainte humanité du Christ, passe par le corps du Christ. Le corps du Christ, il est là dans l'Eucharistie. Donc oui, on peut prier partout, mais maintenant, Dieu a voulu se faire chair, hein, c'est le prologue, et les gens avaient besoin d'aller toucher cette personne de Jésus-Christ, et cette personne qui a grandi à Nazareth et qui a vécu en Judée, en Galilée, etc., il est présent aujourd'hui dans l'Eucharistie. Il nous appelle, il nous invite, il nous attend, même si on peut aussi le rejoindre différemment. Mais ne rejetons pas aussi cette invitation à le rencontrer dans l'Eucharistie, parce que c'est là où il nous appelle d'une manière toute spéciale.
Voilà, donc merci beaucoup Père Florian Racine. Je rappelle, vous êtes le prêtre fondateur des missionnaires de la Très Sainte Eucharistie. Et puis si par hasard, certains prêtres nous écoutent et voulaient lancer, vous inviter pour une mission paroissiale pour installer l'adoration perpétuelle, permanente ou à peu près continue dans leur paroisse, et bien tout simplement, il faut faire appel aux missionnaires de la Très Sainte Eucharistie. On trouve évidemment leurs coordonnées sur Internet. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On va faire une première pause musicale et puis après on va retrouver différentes personnes dans la région qui ont monté des lieux d'adoration et vont nous expliquer comment ça se passe chez eux, à Toulouse, à Pau ou à Pamiers.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc Rencontrer Jésus, émission donc sur l'adoration en cette rentrée, avec autour du plateau, alors il y avait quelques instants le père Florian Racine, prêtre fondateur des missionnaires de la Très Sainte Eucharistie, donc comme apostolat d'essayer de développer l'adoration dans les différentes paroisses ou sanctuaires aux quatre coins de la France, et puis autour du plateau, Florence de la Giclée, membre de l'adoration perpétuelle de Toulouse, Christian Lacourège qui nous a rejoint, qui est coordinateur de l'adoration à Pau. Bonjour.
Bonjour.
Et puis va nous rejoindre dans un instant Dominique Gratté, qui est membre de l'adoration de Pamiers, et un peu plus tard dans l'émission, en duplex depuis nos studios à Lourdes, on sera avec Franco, qui est responsable de la communauté du Cenacolo à Lourdes, communauté donc lieu de vie et d'accueil pour des personnes qui traversent une période de toxicomanie. Alors on va commencer avec vous, Christian Lacourège.
Oui.
Je me suis dit qu'on allait faire un petit panorama en fait des lieux d'adoration dans notre région. Alors évidemment c'est pas un tour exhaustif, mais pour montrer qu'il n'y a pas qu'à Toulouse qui se passe des choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe l'adoration à Pau ? Est-ce qu'elle est perpétuelle, permanente ? Et puis comment ça s'est mis en place ?
Alors l'adoration perpétuelle de Pau a été mise en place en novembre 2009. Donc, il y a bientôt 8 ans, à l'initiative de notre évêque, la Monseigneur Hayé, qui avait pour projet de créer 2 adorations perpétuelles sur le diocèse, Bayonne et Pau, avec pour objectif premier, faire en sorte qu'il y ait des vocations dans le diocèse. Donc, grâce à l'appui des missionnaires du Saint-Sacrement, donc de Florian Racine, il a été mis en place sur Pau une adoration perpétuelle avec le système dont a parlé il y a quelques minutes Florian Racine.
Alors c'est-à-dire voilà. Comment vous êtes pris en fait ? Tout simplement vous avez appelé donc ces missionnaires dont on a eu
oui.
qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, et puis ils sont venus à l'occasion d'un dimanche pour leur mission, et derrière
Exactement.
Les gens se sont levés comme un seul homme pour se mettre à adorer.
Ah oui, effectivement, il a fallu trouver des volontaires pour participer à cette organisation. D'abord, il faut qu'il y ait un coordinateur, des responsables de division, puisque c'est un système pyramidal, avec donc responsables de division pour la nuit, le matin, l'après-midi, le soir, et ensuite trouver 24 responsables horaires.
Voilà, c'est-à-dire...
Puisque dans une semaine, pour une adoration perpétuelle, il n'y a pas moins de 168 créneaux horaires. 168.
Vous voulez dire qu'il y a quelqu'un qui est responsable de la tranche 6h du matin, 7h, et il est chargé
exactement,
d'assurer
oui,
le relais
oui,
tous les jours.
Oui. Alors j'assure moi la mission de coordinateur et je travaille en coordination avec ces responsables de division et ces responsables horaires.
Alors est-ce que vous étiez là au moment où le père Florian Racine ou l'un de ses adjoints était venu pour cette mission paroissiale ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé ?
Je n'étais pas là à ce moment-là, mais je connais bien le principe. Donc effectivement, là, le père Florian Racine là, et son équipe là, viennent lors de célébrations, viennent en quelque sorte porter la bonne parole, expliquer comment ça fonctionne et inviter donc les paroissiens à donner 1 heure par semaine pour venir adorer.
D'accord, mais alors la question qu'on se pose, c'est que le père Florian Racine fait des miracles alors, parce que peut-être qu'il y a un certain nombre de prêtres qui aimeraient que l'adoration se développe, et tout d'un coup les gens se lèvent, qu'est-ce qui...
Oui, effectivement, donc ça veut dire que l'art de la parole a son importance, c'est vrai, et puis la grâce de Dieu passe par là.
Comment ça s'est passé à Pau ? Est-ce que les gens ont répondu rapidement ? Est-ce qu'il y a un combat,
oui,
entre guillemets
oui. Effectivement, parce que il faut trouver actuellement, vous voyez, l'adoration sur Pau, c'est un peu plus de 300 adorateurs permanents. Plus une multitude donc de personnes qui viennent quand elles le souhaitent, puisque la chapelle est ouverte 24 heures sur 24.
Alors, est-ce que vous pouvez nous partager quelques-uns des fruits que porte cette adoration ? Je ne sais pas, déjà, la première intention, semble-t-il, qui était celle de Mgr Hayé,
oui.
évêque du diocèse de Bayonne, c'était qu'il y ait des vocations dans le diocèse. Est-ce qu'il y a des vocations depuis ?
Alors, lors de son arrivée, Mgr Hayé s'est retrouvé dans un diocèse avec un séminaire qui avait fermé, et il a fait le pari de réouvrir le séminaire. Et aujourd'hui, donc, en 2017, sur le diocèse de Bayonne, il y a presque une trentaine de jeunes qui ont décidé donc de devenir prêtres.
D'accord, mais c'est que des jeunes du diocèse ou est-ce que c'est des jeunes qui viennent d'autres diocèses
Des jeunes
aussi?
qui viennent parfois d'un peu partout, et ça sur l'important, c'est parce que on est parti de zéro, et aujourd'hui, je vous dis, il y a une trentaine de séminaristes qui relèvent du diocèse de Bayonne.
Est-ce que vous pouvez nous partager quelques autres fruits de cette adoration? Il y a toujours ce qu'on
Oui,
appelle
bien sûr,
les
parce que
fioretti.
il y a bien sûr donc tout ce qui touche donc les grâces ecclésiales et de séminaires, mais il y a effectivement les grâces personnelles. Et là, au travers des témoignages là, que je peux recueillir, bon, ben, ça veut dire qu'au niveau de pas mal de personnes, ils retrouvent une certaine sérénité, de l'apaisement, de la confiance. Et ça, c'est important parce que au travers, là, on a dans la chapelle là, un carnet d'intention où les personnes peuvent, en quelque sorte, ben, s'épancher et faire part de leurs soucis, de leurs souffrances. Et je peux vous assurer que beaucoup de personnes ont la chance d'avoir cette possibilité parce qu'elles traversent des périodes difficiles.
Alors, on va se tourner vers Toulouse. On remonte un petit peu au nord de notre région avec vous, Florence de la Giclée. Est-ce que, même question, je ne sais pas depuis quand existe cette adoration quasi perpétuelle à Toulouse?
Ça existe depuis 4 ans.
D'accord.
Voilà, donc.
Et même principe, est-ce que
Oui.
c'est les mêmes missionnaires qui ont débarqué à Toulouse?
Oui, enfin moi j'ai pas ce souvenir-là parce que c'est lors d'une messe qu'on nous a parlé de l'adoration perpétuelle, mais je sais que le père Racine est venu à Toulouse. Je n'ai pas pu assister à ce. Je sais pas si c'était une intervention ou une conférence, mais voilà. Donc,
Et alors vous, comment vous y êtes mis?
tout simplement, à l'issue de la messe où on nous a parlé de l'adoration, j'étais avec ma maman et on a reçu des tracts. Donc, on s'est inscrite tout de suite. On a décidé toutes les deux immédiatement d'un créneau horaire auquel on pourrait participer à l'adoration. Et on s'est lancé.
C'était déjà une pratique pour vous, ou est-ce que
Non.
vous y êtes mis parce que vous avez été incité par cette...
Non, non, je ne pratiquais pas du tout l'adoration. J'étais certaine de la présence du Christ dans les églises, mais je n'avais jamais eu cette proximité immédiate avec lui à travers le Saint-Sacrement.
Qu'est-ce qui vous a décidé alors? C'est justement parce
Bah
que on
justement
vous y a
parce que
incité ou...
non, je pense que aussi j'étais en recherche de moments de calme où j'étais plus centrée sur la spiritualité que sur la vie de tous les jours qui est très accaparante quand on est mère de famille et que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la journée. Et on a peut-être, enfin moi j'ai un petit peu de mal à me centrer. Je sais que ma prière fait partie de mon quotidien, mais je ne sais pas forcément être calme et direct avec le Christ.
Voilà, en tout cas, donc vous avez 4 enfants, ça vaut le coup de le préciser, entre 24 et 10 ans et demi.
Oui.
Je sais que vous avez quelques, comment dire, pas une exhortation, mais vous avez comment dire, voulez nous partager quelques bonnes raisons d'adorer. Alors, dites-nous.
Alors d'une part, ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'on se retrouve en tête à tête avec le Christ, on est seul, même si l'église peut être remplie de bruissements, de passages, qu'il y a énormément de gens qui adorent aussi quelques minutes, il y a d'autres adorateurs aussi qui sont là, qui constituent la chaîne. On est quand même en tête à tête et à cœur ouvert avec le Christ en direct et ça n'a pas de prix, c'est-à-dire qu'on peut s'abandonner totalement et être là avec lui. L'adorer, c'est aussi juste le regarder, essayer de se regarder aussi à travers lui.
Est-ce que vous êtes rentré facilement dans cette dévotion? Vous disiez que vous aviez comment dire, la foi
Oui.
en la certitude, enfin la certitude de la présence du Christ ressuscité dans l'Eucharistie.
Oui.
Mais après,
Non,
est-ce que
ça n'a
c'est
pas été
simple
facile sur
d'adorer
le
une
plan
heure?
pratique. C'est vrai que c'est difficile. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure? Et d'ailleurs, il y a des moments où je me suis même endormie parce que j'avais pris un horaire, un créneau qui était entre 17 et 18 heures et que c'était la fin de la journée et que voilà, j'étais calme, apaisée, sereine et du coup, je m'endormais. Et puis après, j'ai prié. Alors, je faisais soit je disais un chapelet, soit je priais tout simplement en parlant, parce que parler aussi c'est une prière, on n'a pas besoin de prières toutes faites. Et puis je me suis aussi appuyée sur la Bible, je prenais la Bible avec moi et je l'ouvrais au hasard à chaque heure d'adoration pour m'imprégner des textes et méditer sur les textes en présence du Christ.
Et vous aviez la certitude que vous étiez en face de quelqu'un, ou est-ce que ça vous demande constamment de poser un acte de foi, de vous dire non, mais il y a quelqu'un, même si je le vois pas.
Ah non, c'était vraiment simple pour moi de, enfin, c'était évident que j'étais là. Enfin, quand je suis dans l'église, je suis avec Dieu. Quand je suis avec d'autres personnes qui prient, je suis avec Dieu. Je suis là en toute confiance et en certitude absolue. J'ai pas du tout d'effort à faire pour le croire.
Alors, même si vous n'êtes pas la coordinatrice de cette adoration qui est quasi perpétuelle à Toulouse, puisqu'il y a juste quelques nuits qui ne sont pas assurées, mais en même temps, c'est aussi un appel aux bénévoles, hein,
oui, bien sûr.
Cette émission. Qu'est-ce que vous savez de la facilité ou de la difficulté qu'il y a eu à mettre en place cette adoration? Est-ce que les échos que vous avez eus, c'était comme à Pau, c'est-à-dire que les missionnaires sont arrivés, ils ont exhorté, et puis derrière, on a trouvé, et la foule s'est levée?
Alors oui, il y a beaucoup de monde qui s'est proposé spontanément, puisque je n'ai pas été la seule avec ma maman à remplir un tract. Ça a été repris dans plusieurs paroisses de Toulouse, bien sûr. Et ensuite, on a eu des réunions pour expliquer un petit peu aux personnes qui s'étaient portées volontaires comment ça allait se passer. Et ça n'a pas été simple, je pense, à mettre en place pour la coordinatrice, que je connais bien. Et notamment, au départ, pour le créneau horaire que j'avais choisi, il devait y avoir un respador. On les appelle les respadors, les responsables d'horaire,
oui.
D'une tranche horaire. Et donc moi j'ai servi d'intermédiaire un petit peu, j'ai fait du respadoring en intérim. Et voilà, c'était pas très simple parce que même si on a 6-7 personnes avec soi pour prier un jour particulier à une heure particulière, enfin sur la semaine, on est confronté à des questions auxquelles on ne sait pas forcément répondre.
C'est-à-dire, en fait, les gens qui assurent la tranche horaire vous posent des questions?
Oui, pour savoir comment je vais faire pour me faire remplacer, qu'est-ce qui se passe si je m'absente, est-ce que je peux partir avant l'heure, est-ce que... des choses comme ça. Donc, on fait remonter les informations, etc. Mais ce ne sont pas des réflexes qu'on acquiert tout de suite. Voilà, donc il faut beaucoup téléphoner et poser les questions.
Qu'est-ce que vous nous diriez aussi de l'adoration de nuit, puisque c'est en l'occurrence les créneaux les plus difficiles à remplir?
Ouais.
Vous adorez pas la nuit, puisque vous assurez le 17-18 heures.
Ouais.
J'imagine que vous avez eu quelques échos. J'avais souvenir de la coordinatrice Marie Gaudron, qui était est présente en plateau, je crois que c'était une émission l'année dernière, qui expliquait qu'il y a toujours une grâce particulière qui est attachée à ces adorations de nuit.
Oui, parce que je pense qu'il y a une sérénité supplémentaire. Il y a beaucoup moins de bruit dans la ville, déjà, quand on arrive... dans la chapelle, parce que la nuit, c'est dans une chapelle attenante à l'église Saint-Jérôme que ça se passe. On est encore plus protégé, encore plus dans un cocon. La présence du Christ est encore plus mystérieuse, je dirais, parce qu'il y a très peu de lumière. Donc, seul le Saint-Sacrement est éclairé. Et puis, on a fait l'effort de se lever quand même. Donc, il y a aussi une démarche plus forte, je crois.
Qu'est-ce que vous pourriez nous dire aussi, comme Christian Lascourège, des fruits que porte cette adoration? Est-ce que vous avez quelques fioritiers à nous partager?
Alors, personnellement, moi j'ai trouvé plus de confiance, encore plus de conviction au sujet de ma foi, de voir que vraiment elle est de plus en plus solide, de plus en plus forte, et qu'elle se construit aussi avec les doutes, aussi avec les questions que tout le monde peut se poser. Et en particulier, j'ai trouvé un travail dont je ne connaissais même pas l'existence. Ce métier ne m'évoquait rien auparavant. Je pense que c'est en lien direct avec l'adoration, puisque on m'a parlé de ce travail à la cathédrale Saint-Étienne, à l'intérieur de la cathédrale Saint-Étienne, lors d'une assemblée paroissiale, et j'ai été recrutée. Je dirais pas presque par hasard, parce que pour moi c'est pas du hasard, mais je suis investie, pour moi je suis investie d'une mission. Et donc au-delà de ce travail, je pense que je porte en moi le message du Christ pour les personnes que je côtoie dans mon travail.
Qu'est-ce que vous auriez d'autre comme un ou deux autres exemples qui vous auraient été partagés?
J'ai une amie aussi qui a vécu un chemin très difficile avec son mari, dont elle était obligée de se séparer, et qui a malgré toutes les difficultés qu'elle a eues avec ses enfants, avec la vie quotidienne qu'il faut assurer malgré le chagrin, elle a eu beaucoup de joie parce qu'elle a partagé beaucoup avec le Christ et qu'elle a reçu beaucoup. Et je crois que l'amour que nous tous nous portons en nous, il est décuplé quand on se retrouve face au Christ et qu'on peut lui renvoyer ce message d'amour que lui nous a porté.
Voilà, donc appel est lancé. Je ne sais pas, on a oublié de poser la question à Christian Lascourège, qui est peut-être encore avec nous, non, Christian Lascourège. Est-ce qu'il vous manque du monde, Christian Lascourège, Adoration
Pro?
Alors allez-y, surtout, lancez votre appel.
Après l'été, où il y a pas mal de turnover professionnel, et donc il y a des créneaux, notamment des créneaux de nuit, qui mériteraient d'être renforcés, ou tout simplement que des gens s'inscrivent pour la nuit.
Voilà, même appel est lancé donc pour le sanctuaire Saint-Jérôme à Toulouse. Voilà, que les veilleurs de nuit se lèvent, que les veilleurs de nuit se lèvent, père ou mère de famille, célibataire, consacré. Bref, le Seigneur les attend. Et on va faire une deuxième pause musicale et puis on va tout retrouver tout de suite après Franco, donc responsable de la communauté du Cenacolo à Lourdes, où l'adoration est une réalité quotidienne pour des jeunes qui parfois sont à des années-lumière en fait de ce type de réalité, qui arrivent et qui sont pris dans la toxicomanie et qui se relève entre autres grâce à l'adoration eucharistique.
Présence à Lannemezan 92.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église en ce lundi avec ce titre Rencontrer Jésus dans l'adoration. Voilà, si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle que nous étions au début de cette émission. Il est bon de le rappeler parce que ça peut intéresser certaines personnes en responsabilité dans l'Église. Père Florian Racine, qui est prêtre fondateur des missionnaires de la Très Sainte Eucharistie, voilà, installé à la Sainte-Baume dans le diocèse de Toulon et qui sillonne la France pour essayer de développer l'adoration eucharistique dans les paroisses, entre autres. Et puis autour du plateau, Florence de Lagiclée, membre de l'adoration perpétuelle à Toulouse. Il y avait Christian Lascourège, coordinateur de l'adoration à Pau. Et maintenant, Franco Geda, qui est responsable de la communauté du Cenacolo de Lourdes, en direct, en duplex depuis nos studios à Lourdes. Bonjour Franco.
Bonjour à tous.
Voilà, j'avais même oublié votre nom, parce que comme vous êtes connu et qu'on vous appelle souvent Franco avec simplicité, voilà, mais maintenant je sais que vous appelez Franco Geda. Peut-être pouvez-vous commencer par nous représenter la communauté du Cenacolo, parce que c'est pareil, elle est connue de certains auditeurs et beaucoup moins de d'autres. Qu'est-ce que c'est que cette communauté bien particulière ?
Eh bien, le Cenacolo, c'est un lieu d'accueil pour des personnes qui ont eu des problèmes d'addiction, surtout de la drogue, l'alcool. Mais maintenant, les addictions, il y a une évolution et on a un accueil un peu plus large. Et qu'est-ce qu'on propose? On ne donne pas des médicaments, mais on met un ange gardien, ça veut dire une personne à côté de l'autre. Et on retrouve une hygiène de vie. D'abord, on se lève tôt, on mange à l'heure, on travaille. Ce sont des vieilles fermes, nos maisons. Et en plus, dans toutes nos maisons, il y a une chapelle où on propose aussi la prière. Et Sœur Elvira, qui est notre fondatrice, une religieuse italienne, il nous a appris aussi à se tourner vers Jésus Eucharistie pendant l'adoration, quand ça ne va pas, pour vraiment essayer d'évoluer. Il faut dire que nos garçons, ils arrivent de très loin. Moi
alors
aussi,
justement, expliquez-nous peut-être, tout le monde n'est pas familier en fait des différentes toxicomanies. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a différentes formes d'addiction. Il n'y a plus que des personnes qui se droguaient ou qui se droguent. Dans quel état ils arrivent et qu'est-ce qu'ils ont vécu?
Mais souvent, on était détruits. On a touché le fond pour accepter aussi un style de vie proposé, comme on propose au Cénacolo, où on ne fume pas, on ne boive pas, on travaille, on prie et on dialogue. Et ça dure 2-3 ans, le séjour chez nous. Mais tous, on arrive à être très tristes. On a touché la drogue, on a touché l'alcool, on est dépendant d'Internet, on a fait des jeux d'hasard, on s'est perdu dans plein de domaines. Pour nous, ces addictions sont des conséquences à d'autres blessures et d'autres fragilités. Et bien sûr, le soutien humain, c'est très important, mais il faut arriver à la cause, au pourquoi, et ça, il faut aller en profondeur dans nos cœurs. Et je pense que Jésus, vraiment, qu'est-ce qu'il nous a proposé, Sœur Elvira, c'est vraiment une force, c'est la source de la force pour recommencer à vivre.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer vous-même, Franco, qui êtes aujourd'hui donc responsable de cette communauté depuis maintenant un certain nombre d'années, je crois même que vous êtes responsable pour la France, si je ne me trompe pas, quelle a été à gros traits votre histoire?
Oui, le vrai responsable, c'est Nicolas, c'est l'Esprit Saint, heureusement, mais quand même, oui, je m'occupe aussi des maisons de France. Mais moi aussi, je me suis drogué pendant 23 ans, j'avais touché le fond, j'ai essayé le suicide 2 fois avant d'entrer en communauté, et je suis arrivé dans cet lieu, je pensais que tout le monde, il était fou, parce que je voyais 40 mecs dans la maison où j'étais entré, se mettre en genoux devant un bout de pain, et prier, louer, et sortir de là, on était tous souriants, je comprenais pas trop. J'ai dû faire l'expérience, vraiment essayer, pour curiosité au début, de me mettre en genoux devant Jésus. Je me souviens qu'avec mon ange gardien, c'était le garçon qui s'occupait de moi, on s'est levé la nuit, après 2 mois que j'étais entré au Cénacolo, pour aller à faire l'adoration, se mettre en genoux dans cette chapelle. Je ne comprenais pas trop, mais dans cette expérience, tout de suite, j'étais touché par la grâce. Et j'ai reçu un enthousiasme, l'envie de réaller la nuit d'après. Et je me trouvais petit à petit quelques changements. J'étais comme tombé amoureux. Ça a changé ma vie, cette rencontre avec Jésus Eucharistie à travers l'adoration. Et ça, après, j'ai eu besoin de temps. Je me souviens, après 9 mois que je faisais déjà l'adoration, pendant la journée, j'étais encore le même, j'étais bien pire, ça n'allait pas. Mais à travers ça, je suis arrivé après et je continue parce que maintenant, je suis vraiment un pauvre type. J'arrive pas toujours à vivre certaines choses, mais cette visite eucharistique, comme il disait Don Bosco, il m'aide à trouver la paix, à relever la tête et à repartir pendant la journée.
Alors vous diriez que d'une certaine manière, en fait, ça fait partie de la posologie, si je peux me permettre cette expression, et du chemin de reconstruction, en fait, de proposer l'adoration dans votre communauté. Je sais que, par exemple, il n'y a pas de substitut aux différentes addictions qui est proposée aux jeunes, qui arrivent, jeunes et moins jeunes. Mais par contre, il y a un médicament qui était voulu depuis le début, qui était donc l'adoration eucharistique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus et peut-être nous dire... j'imagine que parfois ça peut être mal compris. On peut se dire qu'il y a une manière de trop spiritualiser certaines difficultés. Qu'est-ce que vous répondriez à ça?
Non, mais vous savez, moi j'étais vraiment un toxicomane et je pense que j'avais développé vraiment une mentalité très tordue. Il faut être vraiment très simple aussi à proposer la prière en toxicomane. Moi, je suis sûr que si j'étais parti dans un monastère ou seulement à prier, je serais parti en délire mystique. Mais la vie concrète, quotidienne, du travail, de la relation avec les autres, vous savez, vivre à 40 dans la même maison, c'est pas toujours facile. Et en plus, avoir des moments de prière, ça aide énormément. Ça apaise, ça vraiment, ça change ta vie. Moi, je pense que nous, chez nous, on a plein de règles. On vit la vérité, on travaille, on retrouve le goût au travail, on dialogue, on exprime qu'est-ce qu'on vit vers les autres, vraiment dans la vérité. Mais je pense que la clé de tout pour changer nos cœurs, c'est l'adoration eucharistique et les sacrements, la réconciliation et la messe qu'on vive deux fois par semaine. Mais c'est pas seulement ça, il faut vraiment trouver un équilibre. Et je pense que Sœur Elvire, elle était bien inspirée de bon Dieu pour nous donner les éléments concrets pour rester en équilibre.
Pour finir cette émission, qu'est-ce que vous nous partageriez des fruits? Vous nous avez raconté déjà votre histoire personnelle, c'est magnifique cette rencontre que vous décrivez avec le Christ dans l'Eucharistie. Les fruits que porte cette adoration, est-ce que vous avez quelques histoires en tête autour de l'adoration liée à votre communauté et aux gens que vous accueillez?
Mais bon, je vous dis qu'est-ce que je vis. Et hier soir, j'étais avec un garçon américain, originaire de la Floride, très inquiet pour sa maison, sa ville, sa famille. Il y avait l'ouragan qui est arrivé. On a regardé sur Internet et après j'ai dit, écoute, là, je pense qu'on perd du temps. Il faut qu'on va en genoux devant Jésus pour prier. C'est l'unique chose qu'on peut faire. Et bien, ce matin, enfin, j'ai vu les nouvelles et tout et ça allait beaucoup mieux. Et sur lui, ça l'a apaisé, l'adoration, mais peut-être que Jésus, à travers ça, il va aussi à protéger certaines choses. Moi, je le crois vraiment, que ça, c'est très important. Après, on est vraiment, moi je vous dis, au Cénacle des pauvres types, moi en premier. Ce matin, à 6h30, toute la maison s'est retrouvée à la chapelle pour prier, et ma femme, elle s'est levée pour aller, et moi, j'étais paresseux, je suis resté au lit, je suis pas arrivé à me lever, mea culpa. Et en plus, je venais à vous parler de l'adoration, j'étais vraiment mal à l'aise. Et enfin, plus tard, après que j'ai fait les choses que j'avais à faire à la maison, je suis passé à faire une visite eucharistique comme ça me plaît faire. Je me suis mis en genoux, j'ai demandé pardon à lui et ça m'est arrivé la paix pour venir aussi à cette émission. Mais en sortant, j'ai eu un clin d'œil, un cadeau, un garçon qui vient à ma rencontre et dit « ça y est, j'ai bien décidé, je veux me faire baptiser ». Oh, pour moi, c'était très beau et très fort. Et cet garçon, il arrive de très loin et il a vraiment arrivé à prendre ses décisions d'une façon belle et mûre à travers l'adoration eucharistique. Merci Seigneur.
On a l'impression, la plupart du temps, ce sera ma dernière question, qu'en fait l'adoration eucharistique, c'est à la fois évidemment une folie en fait pour, on va dire, pour l'homme, et une espèce de miracle permanent, et qu'en même temps, souvent, les premiers fruits qui ont été partagés, ne serait-ce que dans cette émission, enfin qui sont partagés et dans cette émission, c'est que c'est d'abord des fruits en fait très simples, des fruits enfin très simples et très profonds, juste la paix, la confiance, la capacité à s'abandonner. Est-ce que vous diriez que chez vous aussi, la plupart du temps, Dieu ne se manifesterait pas à travers cette dévotion par des fracas ou par des choses extraordinaires, mais par des petites choses du quotidien, et comment vous les qualifieriez?
Non, mais vous savez, c'est en rencontre avec Jésus et à travers l'adoration eucharistique, c'est quelque chose de très fort et très concret. Pour moi, Jésus s'est devenu mon meilleur copain et pour tous les gars qui sont venus au Cénacolo. Et aussi, un jour qu'elle part du Cénacolo, je leur dis toujours, au moment qu'il faut prendre une décision, il faut dire quelque chose, il faut que tu entres dans une église, tu vois où il y a la petite lumière rouge, là il y a un tabernacle, il y a Jésus, et tu la prends devant lui, cette décision. C'est là que tu déposes aussi tout tes poids, tout tes fardeaux. Moi, j'écoute pas mal des choses aussi lourdes et après, j'ai besoin d'aller devant Jésus et je lui offre à travers l'adoration eucharistique. Et c'est ça que ça m'apporte la paix et ça nous donne la force. C'est vraiment la source pour moi pour vivre la vie avec vraiment la tête haute.
Eh ben, merci beaucoup à tous d'être venus nous parler donc de ce grand mystère qu'est l'adoration eucharistique pour cette émission Rencontrer Jésus. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.